On va commencer par la première présentation de cet après-midi, donc un versant plus obstétrical avec Émeline Maisonneuve et Laura Cario du CNRHP Clinique sur l'évolution des indications de transfusion in utero sur les 30 dernières années.
Sur l'évolution des indications de transfusion in utero entre 1993 et 2020 dans un centre de référence national qui est le CNRHP. Donc, on a eu déjà des petits éléments d'introduction ce matin, hein, mais l'anémie fœtale, on le sait, c'est une pathologie qui est potentiellement létale pour le fœtus et une des rares pathologies pour lesquelles un traitement est accessible en anténatale. En ce qui concerne les étiologies de l'anémie fœtale, on a repris la même étude qui a été présentée ce matin sur l'état des lieux des transfusions in utero en France entre 2011 et 2014, qui s'est intéressée à l'étiologie des anémies qui ont nécessité une transfusion in utero. Et vous avez sur le graphique la première cause d'anémie est représentée par les alloïmisations en TD, suivie ensuite par les infections virales et notamment au parvovirus B19, et enfin les alloïmisations en TKL qui représentent les trois principales causes d'anémie fœtale. Dans cette même étude, il est apparu que le CNRHP représentait 40% de l'activité transfusionnelle en France. Et cette part assez importante de l'activité du CNRHP est confirmée par une étude publiée en 2020, un forum international qui s'est intéressé aux transfusions in utero dans plusieurs centres de référence nationaux dans le monde. Et le CNRHP était le premier centre de référence national qui avait fait 73 actes de transfusion annuels en 2018. Donc on l'a vu, l'alloïmisation en TD est la principale cause d'anémie fœtale. Quelles sont les mesures de prévention qui ont été mises en place? Dans les années 1970, a été introduite la prophylaxie ciblée par immunoglobuline en TD. Puis en 2005, le CNGOF et le CNRHP ont émis des recommandations qui ont rappelé l'importance de la prophylaxie ciblée et introduit la prophylaxie systématique à 28 semaines. On a d'ailleurs ici une étude descriptive menée aux États-Unis qui est parue en 2008, qui s'est intéressée à la fréquence des alloïmunisations dans deux séries américaines, la première datant de 1969, donc avant les recommandations de prophylaxie ciblée, et la seconde de 1996. Et donc on a en diagramme blanc ici la série de 1969 et en noir celle de 1996 pour les différents anticorps, et vous voyez que la part des immunisations anti-D diminue franchement entre les deux séries avec une augmentation des autres anticorps et notamment l'anticorps anti-quel. Et c'est d'ailleurs confirmé par une cohorte prospective qui a été menée en Suède et publiée en 2013 où ils se sont intéressés à la prophylaxie systématique à 28 semaines chez un groupe chez lequel a été réalisé un génotypage rhésus des fœtales en comparaison avec une cohorte historique chez laquelle il n'y avait pas eu de prophylaxie systématique. Et ils ont permis de démontrer qu'il y avait une diminution de l'incidence d'alloïmunisation anti-D de 0,46% à 0,26%. Donc on a remis ici un extrait des recommandations pour la pratique clinique du CNGOF et du CNRHP. Et ils parlent, eux, également d'une diminution d'incidence d'immunisation de 0,8 à 2,2% contre 0,1 à 0,7% en cas de prophylaxie systématique et ciblée. Alors, comment on diagnostique l'anémie fœtale? Vous le savez, c'est sur des signes échographiques, les épanchements, la nasarque. Et puis, depuis la fin des années 1990, sur une élévation de la mesure du pic systolique de vélocité de l'artère cérébrale moyenne, qui, quand il est supérieur à 1,5 multiple de la médiane, est prédictif d'un risque d'anémie fœtale. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans ce graphique paru en 2000, où ils ont regardé l'évolution du pic systolique de vélocité de l'artère cérébrale moyenne en fonction de l'âge gestationnel chez différents fœtus, chez qui il y avait eu une ponction de sang fœtal. Et donc, en rond blanc ici, sont représentés les fœtus sans anémie, En triangle, ici les fœtus avec anémie modérée à sévère, et en rond noir ici les fœtus avec anasar qui on voit bien qu'ils sont supérieurs à 1,5 multiple de la médiane, cette ligne en pointillé. Et cette mesure a l'avantage d'être reproductible, et soumise à des conditions de mesure strictes avec une valeur prédictive négative qui est de 97,8% et des faux positifs à 12%. Alors, le traitement de l'anémie fœtale, le traitement de référence, c'est la transfusion in utero. La première transfusion a été effectuée en 1963 par Lailey en Nouvelle-Zélande. C'était un abort sous scopie, une transfusion intrapéritonéale et qui se faisait après dosage de la bilirubinamie. Si celle-ci était augmentée, on faisait dans un deuxième temps la transfusion. Et puis depuis 1981, on a introduit l'abort intrafuniculaire. Et enfin, dans les années 2000, il y a eu des améliorations des techniques qui ont permis d'augmenter la survie et de diminuer les complications de ces gestes. Le traitement non-invasif qui a été débuté dans les années 2010 correspond à l'injection d'immunoglobuline intraveineuse. Et il y a eu plusieurs études, et notamment l'article paru en 2020 de Maisonneuve, qui montre que ça a permis de décaler de 24 jours le terme de la première transfusion in utero.
Alors, grâce à cette cohorte de transfusions in utero réalisée au CNRHP, nous avons souhaité étudier l'évolution des indications des transfusions in utero entre janvier 1993 et décembre 2020, et voir quel était l'impact des recommandations de 2005 sur les indications des transfusions in utero. Donc, notre critère de jugement principal, c'était la proportion des transfusions in utero pour allomisation érythrocytaire parmi toutes les indications de transfusion in utero. Et les critères de jugement secondaire, c'était sur les transfusions pour allomisation érythrocytaire, voir la proportion des allomisations anti-D, et ensuite de voir quel était l'événement sensibilisant et ou le trimestre correspondant à l'allomisation anti-D. Nous avons aussi évalué l'évolution des paramètres biologiques et échographiques liés à l'anémie sévère, ainsi que les issues périnatales des fœtus transfusés. Et donc, le design de notre étude, c'était une étude descriptive rétrospective, donc sur toute la cohorte de fœtus transfusés au CNRHP, donc monocentrique. Donc, le CNRHP qui effectue les transfusions d'abord à Saint-Vincent-de-Paul, puis Saint-Antoine, puis Trousseau. Et nous avons recueilli, enfin c'est surtout Laura qui a recueilli toutes les données de ces transfusions in utero réalisées entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2020. Donc nous avons réalisé une étude avant-après, donc avant 2005, les recommandations pour la pratique clinique, et après 2005. Nous avons inclus les fœtus qui étaient en anémie modérée à sévère sur des critères échographiques, que ce soit des grossesses uniques ou gémellaires, et qui avait été transfusé par l'équipe du CNRHP entre 1993 et 2020. Nous avons exclu les cas de fœtus pour lesquels on avait organisé une transfusion in utero, et finalement, en faisant la ponction de sang fœtal, on trouvait une hémoglobine normale, donc ceux-là ont été exclus parce qu'ils n'ont pas eu de transfusion in utero. Nous avons également exclu les cas où on n'avait pas des données exhaustives sur le bilan étiologique, c'est-à-dire qu'on n'avait pas la RAI, le Kleiwer et la sérologie du parvovirus B19. Et puis nous avons aussi supprimé les trois premières années, 1990, 1991 et 1992, parce que nous sommes rendus compte qu'il n'y avait que un ou deux cas de transfusion in utero. Et on a su par la suite que les dossiers avaient été jetés, donc on n'avait pas toutes les infos sur ces trois années. C'est pour ça qu'on a changé la période d'étude par rapport au titre initial. Donc, en ce qui concerne les résultats de notre étude, nous avons réussi à identifier 866 fœtus qui étaient suspects d'anémie modérée à sévère sur des critères échographiques. Nous avons exclu 40 fœtus qui n'avaient pas d'anémie sur la ponction de sang fœtal. Ensuite, à partir de 826 fœtus qui ont reçu au moins une transfusion in utero, nous avons exclu 19 cas pour lesquels on n'avait pas la sérologie parvovirus B19, on avait juste la RAI, le Kleiwer. Donc on ne pouvait pas statuer sur l'origine de l'anémie. Et nous avons exclu donc les fœtus qui avaient été transfusés sur les années 1990 à 92. Donc au total, nous avons pu étudier 803 fœtus qui ont reçu au moins une transfusion in utero avec une anémie d'étiologie qui était bien documentée entre 1993 et 2020. Donc voici la distribution des nombres de fœtus qui ont été transfusés in utero au cours du temps entre 1993 et 2020. Et puis, donc, nous avons réalisé une comparaison avant les recommandations de 2005 sur la prévention de la légalisation anti-idée et après. Donc, tout d'abord, on peut voir que le nombre de fœtus transfusés in utero entre 1993 et 2020 diminue au cours du temps, avec un coefficient de corrélation qui est important. Et donc, on voit que on tournait à peu près autour de 40 fœtus transfusés dans les années 90, et puis après on arrive plutôt à 25.
Alors, en ce qui concerne les caractéristiques maternelles de base, on s'est intéressé notamment à l'âge maternel, la gestité, la parité. Il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Et puis de façon tout à fait attendue sur l'administration d'immunoglobuline IV, il y a une différence puisque cette mesure a été introduite pendant la deuxième décennie. Enfin, la deuxième période d'études, pardon. En ce qui concerne l'évolution des indications de transfusion in utero, donc toute cause d'anémie confondue, on a séparé ça en quatre groupes. Donc les alloimmunisations érythrocytaires, les infections au parvovirus P19, les hémorragies fœto-maternelles et puis les anémies de cause rare ou indéterminée, dans lesquelles on a inclus les infections à cytomégalovirus, les syphilis congénitales, des dysérythropoïèses et des TAPS. Donc vous avez ici la première période d'étude et la seconde période. On voit qu'il y a une diminution significative de la proportion de transfusion pour alloimmunisation érythrocytaire puisqu'on passe de 90 à 79% de façon significative. Pas de différence sur les infections au parvovirus B19. Une augmentation significative de la proportion des hémorragies fœto-maternelles et puis une augmentation de la proportion des anémies de cause rare ou indéterminée. On s'est intéressé ensuite seulement aux transfusions pour alloimmunisation, donc en séparant les différents types d'anticorps, et donc on voit de la même manière qu'il y a une diminution de la proportion des fœtus transfusés pour alloimmunisation anti-D, on passe de 87% quasiment à 79%, et puis une augmentation de la proportion des fœtus transfusés pour alloimmunisation anti-KEL. Pas de différence sur le petit C. Et sur les autres anticorps, donc c'était des très faibles effectifs, hein, puisque c'est des événements qui sont assez rares, mais on note quand même une augmentation de la proportion des fœtus transfusés pour alloimmunisation aux autres anticorps. On a essayé de regarder les circonstances de l'alloimmunisation anti-D quand on avait l'information. Donc, à l'occasion de quel événement les patientes s'étaient immunisées? Est-ce que c'était pendant un antécédent de transfusion maternelle, pendant une première grossesse au premier trimestre, au deuxième trimestre, au troisième trimestre, à l'occasion d'un geste invasif ou d'un accouchement, d'une fausse couche, d'une interruption volontaire de grossesse? Alors, c'est des items qui sont mutuellement exclusifs. On voit qu'il n'y a pas de différence significative sur l'événement sensibilisant, mais vous pouvez remarquer qu'il y a beaucoup de données manquantes sur cette question, puisqu'on n'avait pas toujours l'information dans les dossiers. De la même manière, on a essayé de comprendre si les patientes s'étaient immunisées à cause d'une prophylaxie non faite, donc à savoir une prophylaxie ciblée ou une prophylaxie systématique. La seule chose qui ressort, c'est qu'il y a moins de patientes qui se sont immunisées à cause d'une prophylaxie systématique à 28 semaines non faite sur la seconde période. On passe de 29% à 10% et ça de façon significative. Concernant les paramètres de l'anémie à la première transfusion in utero, on s'est intéressé à l'âge gestationnel, les mesures du pic systolique de vélocité de l'artère cérébrale moyenne, le taux d'hémoglobine à la première transfusion et la proportion de fœtus en anasarc. Il y a une petite augmentation de l'âge gestationnel à la première transfusion in utero. Pas de différence sur la valeur du pic systolique de vélocité de l'artère cérébrale moyenne. Pas non plus de différence sur le taux d'hémoglobine ou la proportion de fœtus en anémie sévère. Et par contre, on voit qu'il y a beaucoup moins de fœtus en anasarc qu'à la première transfusion in utero, à la deuxième période comparée à la première. En ce qui concerne le site de ponction, on voit qu'il y a une vraie augmentation de la proportion de fœtus qui ont reçu une transfusion intravasculaire, puisqu'on passe de 83% à quasiment 97%, et donc une diminution en miroir des fœtus qui ont reçu une transfusion intrapéritonéale. En ce qui concerne le nombre de transfusions in utero par fœtus, on a également une diminution du nombre de transfusions, puisqu'on passe de 3 actes par fœtus à 2 actes par fœtus sur la deuxième période. On s'est également intéressé au dosage pondéral des anticorps, donc c'était le dosage pondéral qu'on avait au moment où les patientes étaient adressées au CNRHP. On voit qu'il n'y a pas de différence sur ce dosage-là. Et enfin, sur les issues périnatales des fœtus transfusés, on s'est intéressé au terme d'accouchement et à la proportion de mort fœtale in utero et d'interruption médicale de grossesse. Il n'y avait pas de différence sur le terme d'accouchement pour les deux périodes, pas non plus de différence sur la proportion de mort fœtale in utero. Et par contre, on avait une augmentation de la proportion d'interruption médicale de grossesse entre les deux périodes. C'était des interruptions médicales de grossesse pour complications cérébrales, souvent de l'anémie. Et pareil, on avait pas mal de données manquantes sur la première période.
Alors, les résultats les plus importants de notre étude, c'est déjà la diminution du nombre de transfusions au total qui ont été réalisées sur la période de 1993 à 2020 au CNRHP, et également la diminution de la proportion des transfusions in utero réalisées pour alloimmunisation érythrocytaire au cours de cette même période. Et ces données sont corroborées par l'enquête, le rapport d'activité des centres de diagnostic prénatal français, qui a également retrouvé que entre 2015 et 2019, il y avait de moins en moins de transfusions in utero qui étaient réalisées sur tout le territoire et de moins en moins de transfusions in utero pour alloimmunisation érythrocytaire. Ce qui était intéressant aussi dans cette étude, c'est qu'on a démontré qu'il y avait une diminution de la proportion des transfusions in utero pour alloimmunisation anti-D parmi toutes les alloimmunisations érythrocytaires, et donc en miroir, il y avait une augmentation des transfusions in utero pour alloimmunisation anti-quel. C'est retrouvé également dans l'étude de Zwirth avec les données hollandaises. Et donc on voit qu'il y a un impact de la prophylaxie anti-D sur le nombre de transfusions in utero qui sont réalisées pour cette étiologie. Ce qui était intéressant dans l'étude, on ne s'y attendait pas à le retrouver, mais on a constaté une augmentation des transfusions in utero pour hémorragie fœto-maternelle entre la première et la deuxième période. Et en fait, on interprète ça parce qu'on pense qu'il y a sûrement une généralisation de la pratique du Doppler de l'artère cérébrale moyenne. Par exemple, quand les patients viennent aux urgences pour diminution des mouvements actifs, les internes ont tout de suite le réflexe de réaliser un Doppler de l'artère cérébrale moyenne, et donc il y a probablement plus d'anémies qui sont dépistées de cette manière. Et c'est sûrement pour cela qu'on a une augmentation des transfusions in utero pour cette cause dans la deuxième période. Donc on a aussi constaté qu'il y avait une diminution très significative des fœtus qui étaient en anasarque avant 2005 et après 2005, comme dans les données hollandaises. Et c'est important parce que la Lotus Study a démontré que l'anasarque c'est un facteur indépendant de mauvais pronostic neurologique. Donc c'est satisfaisant de voir qu'on a beaucoup moins de fœtus en anasarque sur la deuxième période. Et puis, donc ça c'est expliqué aussi parce qu'on utilise le Doppler de l'artère cérébrale moyenne. Donc on intervient plus tôt. On a une diminution des transfusions intrapéritonéales, et donc ça aussi c'est corroboré par les études hollandaises. C'est lié au fait qu'on a une augmentation de la performance des appareils d'échographie, on arrive beaucoup mieux à visualiser le cordon, en optimisant le gain au maximum, le zoom, etc., en prenant des appareils qui sont beaucoup plus performants que dans les années 90. On a constaté dans l'étude qu'il y avait une augmentation des IMG pour complications cérébrales de l'anémie avant 2005 et après 2005. On l'explique parce qu'on pense qu'on a été peut-être un petit peu plus interventionniste, parce qu'au CNRHP, on a quand même eu des échographistes référents. On a un plateau technique qui permet de faire un bilan étiologique de l'anémie sur sang fœtal. Et donc, parfois, on a fait un bilan étiologique sur la PSF, on a fait la transfusion, le temps d'avoir plus d'informations sur le diagnostic et puis le pronostic à donner aux parents. Et donc, c'est pour ça qu'il y a probablement une augmentation des IMG pour des indications de lésions cérébrales sévères dans des cadres d'anémie fœtale sévère.
Et puis on réalise toujours de manière systématique une IRM cérébrale à 32 semaines lorsque les fœtus ont eu à un moment donné une hémoglobine inférieure à 5 grammes. Donc sur les données de l'allonisation anti-D, on peut voir qu'il y a beaucoup de données manquantes. Alors on a pourtant on fait des consultations dédiées au CNRHP où on reçoit les dames, on fait des interrogatoires, on a des masques de consultation, on leur pose toutes les questions précises pour savoir à quel moment elles se sont immunisées en regardant s'il y avait bien une RAI positive qui s'est positivée après pour voir si c'était au premier, deuxième ou troisième trimestre. Donc avec Pauline Thomas et puis Bertrand Lafont, on fait quand même des interrogatoires assez policiers pour essayer de trouver le moment de l'allo-immunisation. Donc on voit que les données s'améliorent sur la deuxième période, mais on a énormément de données manquantes. Donc le point fort de notre étude, c'est qu'on a une large cohorte qui a été effectuée par un centre de référence national avec une prise en charge homogène et la population est assez représentative de la population européenne. Mais la grosse limite de notre étude, c'est les données manquantes, pas tant pour les techniques de transfusion in utero, mais vraiment les circonstances de l'allonisation anti-D. C'est très 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 difficile d'avoir des données précises, parce que même les patientes, elles ne savent même pas à quel moment elles se sont immunisées, elles ne se souviennent pas quand est-ce qu'elles ont eu l'urophylaque, elles ne sont pas trop sûres d'avoir eu une IVG, d'avoir eu l'urophylaque. Enfin, parfois, c'est des patientes qui ont aussi une allonisation dans un autre pays, et donc on ne sait pas quelles étaient les recommandations en cours dans le pays où elles étaient, et on a des données, on a des interrogatoires qui ne sont vraiment pas précis, et donc c'est difficile de savoir exactement comment elles se sont immunisées. Donc, pour conclure, on peut voir que grâce à cette cohorte de plus de 800 fœtus transfusés in utero entre 1993 et 2020, on a une diminution totale des transfusions in utero annuelles, une diminution de la proportion des transfusions in utero pour allo-immunisation anti-D, une diminution des fœtus en anasarque au moment de la première transfusion, mais c'est très difficile d'avoir des données précises sur les circonstances de l'allo-immunisation anti-D. Alors on souhaite remercier toute l'équipe du CNRHP, aussi bien le CNRHP clinique, qui est avec nous. Qui est très nombreux avec le CNRHP clinique prénatal et postnatal, et puis l'équipe du CNRHP biologique qui est toujours là pour faire les bilans rapidement, de manière exhaustive, et puis nous aider pour nos démarches diagnostiques. On vous remercie.